Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au théâtre de l'Alliance française où je suis très heureux de vous accueillir pour une émission spéciale consacrée, vous le savez, au 31e prix des auditeurs du Masque et la Plume. Très heureux, mais un peu mélancolique, car ce prix est d'abord le vôtre, à vous les auditeurs d'Inter, et dans ce théâtre archi-comble l'an passé pour fêter le prix décerné à Grâce à Dieu de François Ozon, eh bien, cette année, il n'y a pas de public en chair et en os pour applaudir le lauréat de cette année. Je compte donc sur les trois chroniqueurs qui m'entourent, Sophie Avon de Sud-Ouest, Nicolas Chalère de l'Obs, Xavier Le Herpeur de 7e Obsession et d'une heure en série, tous les samedis soirs sur notre chaîne pour faire la claque tout à l'heure comme notre lauréat le mérite, parce que c'est un lauréat. En revanche, il était bien au rendez-vous, notre public fidèle, pour participer à ce vote annuel malgré la crise sanitaire qui a longtemps maintenu les salles fermées en 2020 et malgré une situation anxiogène. Nos auditeurs ont voulu prouver non seulement qu'ils aimaient passionnément le cinéma, mais aussi qu'ils le voulaient sur grand écran, comme on dit, grand-messe. Jamais leurs votes par milliers n'ont été davantage militants, ce qui devrait d'ailleurs faire plaisir au lauréat de cette année qui inscrit son nom dans un tableau où figurent notamment Claude Sautet, Maurice Pialat, André Téchiné, Bertrand Tavernier, Jacques Audiard, Abdelatif Kechiche et beaucoup d'autres. Mais patience. Et on commence, mes enfants, si vous le voulez bien, là je parle aux critiques, par le palmarès des films étrangers. Et c'est peu dire qu'on va voyager. Si nos auditeurs ont boudé notamment, bah oui, le cas Richard Jewell, pour le grand malheur de Xavier, le film de Clint Eastwood, ou encore Tenet, ce qui m'a plus surpris, de Christopher Nolan. Ils ont placé à la 10e place Dans un jardin qu'on dirait éternel, du japonais Tatsuchi Omori, où une étudiante qui se destine à une carrière dans l'édition est initiée à l'art, où excelle Xavier de la cérémonie du thé.
Oui, absolument. Je sais tourner dans le bon sens, le petit fouet qui sert à remuer le thé.
Tu sais tout tourner dans le bon sens.
Toujours, toujours. C'est une très bonne surprise parce que d'abord, ça conclut une année, enfin deux ans, où le cinéma japonais d'auteur a retrouvé un tout petit peu ses lettres de noblesse à la fois dans les films et auprès du spectateur et des spectateurs français. Donc c'est une très très bonne nouvelle, soutenue au fur et à mesure par quelques distributeurs qui prennent ce risque. C'est un film qui était parfait pour cette année, c'est-à-dire que dans cette période de confinement, il apportait de la sérénité, il apportait de la douceur, il apportait de l'exotisme. Et c'est un film extrêmement intelligent, extrêmement féministe, donc bonne nouvelle.
Sophie. Moi, je l'avais recommandé effectivement au Masque. C'est adapté, je ne sais pas si tu l'as dit, de la cérémonie du thé de Morishita. Et j'avais très peur au départ parce que c'était un film évidemment sur le rituel, donc lent, contemplatif, etc. Et j'ai trouvé ce film haletant, captivant.
Nicolas.
Oh bah je vais m'amener le petit bémol. Moi, je trouve que ça manque beaucoup de théine quand même. Effectivement, on apprend bien à faire le thé, la cérémonie du thé.
Je sens que t'es plutôt café, toi.
Hein. Ah, je suis beaucoup plus café, ouais, vraiment. En sortant de ce film. Donc non, mais après c'est pas désagréable, bon. Mais faut exagérer.
À la 9e place, nos auditeurs ont placé Eva en août, Eva en août de l'espagnol Jonas Trueba. Eva, 33 ans, reste seule à Madrid en plein mois d'août et elle va faire beaucoup de rencontres. Vous avez aimé ce film-là, Nicolas ?
Alors c'est un film très troublant, moi j'ai vu tardivement, je n'avais pas vu, et alors c'est de voir cette jeune femme qui est une actrice formidable, d'ailleurs c'est vraiment un film actrice, c'est porté par il faut être vraiment, on tombe amoureux de l'actrice ou on ne tombe pas, je vais retrouver son nom dans deux minutes, et on voit, alors la voir flâner dans les rues de Madrid, la voir aller dans les cafés, au cinéma, au musée, il y a quelque chose d'aujourd'hui qui est de gratifiant à voir ce film.
Oui, d'autant que c'est un film où on n'est pas masqué. Hein,
et on n'est pas du tout, après c'est une chronique très sensible et assez juste, assez bien vu. Je trouve un poil longuette, mais c'est un joli film.
Ouais. Xavier, parce
c'est
que
un poil longuette, mais c'est le cinéma que j'aime bien. C'est un cinéma qui sait imposer son temps, sa temporalité, sa façon de regarder un personnage, de regarder une ville, de regarder un instant. Et je trouve que, alors au début, on trouve ça un petit peu long, mais peut-être un peu de temps à trouver sa place. Mais une fois qu'on l'a prise auprès d'elle, dans ses rues, et ben le film se déroule comme il doit se dérouler. Et j'aime bien que ce soit le film qui prenne un tout petit peu les choses en main. Et c'est l'exemple de Eva en août.
À la 8e place, La femme des steppes, Le flic et l'œuf, mon petit chouchou. Film mongol du chinois Kwanam Wang, où un jeune policier rencontre une bergère sur le lieu d'un crime. Alors le lieu du crime, c'est une plaine, c'est la steppe absolue, il n'y a rien. Il y a quelques chevaux quand même pour moi qui passent au galop au loin. J'ai adoré ce film. Sophie,
je l'ai pas vu, je suis désolée.
À juste titre, c'est une merveille. Et comme les deux précédents, c'est un film qui fait tellement confiance à la mise en scène, à la façon de regarder une situation. C'est un film, on peut ne pas le comprendre quand tu lis le résumé, qui est souvent drôle, puisque un jeune flic va passer la nuit à côté de ce cadavre avec un iPod aux oreilles, enfin, en dansant tout seul dans son coin.
C'est une bergère quand même sur un chameau, hein, il faut le rappeler.
C'est une bergère sur un chameau, c'est une bergère qui a un gros flingue, mais il y a plein d'humour et en même temps.
Ça donne envie.
Bah oui, ça donne envie, non, pas vous. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une poésie folle, et encore une fois, c'est vraiment de la mise en scène.
Bah, j'aurais préféré voir un documentaire sur cette bergère qui est fascinante. Après, je trouve que c'est beaucoup de désert pour pas grand chose. Il y a un vrai sens du plan. Ces steps sont assez hypnotiques, assez fascinantes. Mais au bout d'un moment, je trouve le sujet assez fumeux et je vois pas où est le film, quoi.
Tu as tort. En septième position, Michel-Ange du russe Andrei Konchalovsky, le portrait, j'allais dire, sculpté de l'artiste incarné ici par Alberto Testone. Film quand même de 2h09. Sophie.
Oui, c'est du solide. C'est quand même un beau film. Je trouve que Konchalovsky fait un portrait de Michel-Ange à la fois roublard et génial. Et surtout, il le situe dans un siècle, dans la rudesse d'un siècle où on sent que ça pue, où tout est sale, où tout est un peu crado.
Même lui est sale d'ailleurs.
Hein. Et lui était sale comme un peigne. Et en même temps,
sale comme un peigne, j'aime bien.
Il y a une obsession de la beauté dans ce siècle et dans ce film. Et ça, je trouve que c'est très fort.
Nicolas, Xavier.
Moi, j'ai le peigne très propre, donc, de toute façon, mais j'ai pas de cheveux, donc c'est normal. C'est un film que j'aime beaucoup parce que, effectivement, Sophie l'a dit, il y a un contraste entre le divin, le sacré auquel le travail de Michel-Ange touche et en même temps, la saleté dans laquelle il officie, y compris dans sa sexualité, dans son rapport un tout petit
peu comme
un pervers avec les gens qui vont le subventionner. C'est un très beau film qui se gagne, encore une fois.
Il faut accepter aussi le temps.
Qui se mérite. Mais tant mieux, ça prouve que nos éditeurs savent regarder un film.
À la sixième place, Ondine de l'Allemand Christian Petzold, une jolie version contemporaine de la légende germanique et aquatique d'Ondine, incarnée ici par Paul Haber, qui a reçu l'Ours d'argent d'ailleurs de la meilleure actrice pour ce rôle dans cette version, je le disais, très contemporaine d'Ondine. Nicolas, pas vu ?
Désolé.
Tu vas jamais au cinéma, toi, Sophie ?
C'est l'un de mes films préférés, film coup de cœur, vraiment. C'est un film
très délicat.
Très délicat, ponctué de sortilèges, qui va vers le fantastique. Et ce qui est formidable, c'est que malgré ces sortilèges, on est dans une justesse des sentiments, dans une vérité de l'amour, parce que c'est un film d'amour qui puise dans la mythologie d'Ondine. Ça rend le film absolument bouleversant, avec porté par cet adagio du concerto en ré mineur de Bach, qui ajoute à l'émotion, enfin, c'est magnifique.
Et l'émotion aquatique, Xavier.
Moi, j'avais adoré le film, j'avais l'occasion, le plaisir de le dire au masque, je trouve que c'est absolument somptueux. Et Ondine, c'est aussi une fluidité, et la fluidité, on la retrouve dans l'interprétation, dans la mise en scène. C'est bien de faire couler comme ça l'émotion, tout en l'endiguant un tout petit peu pour qu'elle soit optimale. C'est superbe.
La communion, c'est la cinquième place de ce palmarès des auditeurs du masque. La communion du polonais Jan Komasa, ou un jeune criminel de 20 ans à qui on a refusé de devenir séminariste, comme Xavier, se fait passer pour prêtre dans une paroisse conservatrice.
Je retiens vraiment...
Ah, tu l'as vu ce film ?
Oui, je l'ai vu. Ah, oui. C'est fou.
Au cinéma.
Oui, vous savez, dès qu'il y a un prêtre. Écoutez, je retiens une gueule. C'est Bartosz Belenia, un regard absolument incroyable. Encore. C'est une sorte de Christopher Walken, jeune polonais, il a une présence, il aimante l'écran. Après, le film est intéressant sur la réflexion sur le pardon, la place de la religion dans la société polonaise. Ça démarre en trombe. Vraiment, la première lumière est très très forte. Après, le film devient un peu plus convenu, mais voilà, pour l'acteur et pour une mise en scène assez forte au départ.
Oui, je suis d'accord avec Nicolas, l'acteur est formidable, il est d'une intensité incroyable. Le film est intéressant parce qu'il commence comme un truc christique, puis il va vers Antigone parce qu'il s'agit d'enterrer quelqu'un que personne ne veut enterrer. Après, je trouve qu'il est un peu surclassé quand même, même si j'aime le film, je le trouve pas peut-être...
Jusqu'à maintenant, je trouve que les auditeurs
on est d'accord, mais
bon,
voilà, je l'aurais mis un tout petit peu en dessous.
Mais
c'est un film passionnant.
Il y a plein de films France Inter en plus, qui quand même, ils ont doublement bon goût. Xavier.
Je suis entièrement d'accord avec Sophie. Il y a incontestablement une force d'incarnation qui est exemplaire, le comédien est formidable. Je trouve le début brasse tous les mystères possibles et imaginables, y compris ceux du sacré. La fin, même si elle est inspirée d'une histoire vraie, est un peu cartésienne, un peu posée, un peu démonstratrice.
En quatrième position, Dark Waters de Todd Haynes, c'est l'histoire vraie, vous savez, de l'avocat Robert Bilott, qui a dénoncé en 99 les pratiques toxiques de l'entreprise chimique DuPont aux États-Unis. Mark Ruffalo ne joue pas simplement Bilote, il produit aussi le film qui a réalisé en France dans des conditions, je le disais en début d'émission, assez périlleuses, qui a quand même réalisé 300 000 entrées. Sophie,
comment le rêve américain a muté en désastre, c'est ce que dit Tom Hayes à travers ce film que je trouve magnifique, parce que c'est un film de dossier
sorti pendant la présidence Trump, hein, je
oui,
le rappelle.
Oui, c'est vrai, mais on n'attendait pas Tom Hayes sur un film comme ça de dossier, enfin de dénonciation, etc. Or, il est très fouillé, très complexe, et il s'en sort très bien. Et en même temps, par sa maîtrise, par sa douceur, il en fait une élégie, un film poétique sur l'état de l'Amérique d'aujourd'hui.
Nicolas ?
Oui, et puis c'est très beau, effectivement, comme il donne son style au film, comme il filme ça presque comme un thriller horrifique, où cette menace invisible qui est à la fois l'impunité des élites et de ce groupe industriel, et en même temps de ce poison qu'on ne voit pas, presque on a l'impression qu'il infiltre l'image et qu'il intoxique l'image, qui devient de plus en plus jaunâtre. Et Ruffalo est habité par le rôle qui coproduit le film, et vraiment est très très bon.
C'est très intéressant de voir comment un cinéaste de l'underground, de l'indépendance Exactement. Américaine, new-yorkaise, d'une certaine manière, se coltine au grand cinéma américain avec un acteur comme ça qui prend puissamment le film. C'est intéressant, ça n'est néanmoins pas mon Todd Haynes préféré, je dois l'admettre.
Je parlais des 300 000 entrées du Todd Haynes, et bien 2 200 000 spectateurs français sont allés voir 1917, qui se classe en troisième position du palmarès de Sam Mendes, où la guerre 14-18 traitée à la manière, je dis bien à la manière d'un seul plan séquence. Il y a un peu de tricherie, film de 2 heures qui a remporté 3 Oscars, et donc qui est sorti en France en janvier dernier, donc où il a fait ce score assez exceptionnel, Xavier.
Ça ne m'intéresse pas du tout, c'est un film d'exploit, c'est un film où il n'y a aucun suspense puisqu'on suit un comédien du début jusqu'à la fin, donc on sait bien qu'il ne va pas sauter sur la mine à côté de laquelle il marche. Ça ne m'intéresse pas, c'est vraiment...
Il y a ce défi du plan séquence.
Ça ne m'intéresse pas, c'est une prise de pouvoir du metteur en scène.
Non, mais m'engueule pas.
Et c'est pour moi l'antithèse du cinéma quand un metteur en scène est à côté de moi, me dit regarde comme c'est beau, regarde comme je l'ai bien fait et regarde comme il y a zéro émotion, quoi.
Nicolas.
Je rejoins Xavier. C'est-à-dire qu'il y a un génie dans le film, c'est le chef opérateur Roger Deakins, qui est, et Sam Mendes s'en sert pour faire passer cette odyssée très proprette, sans aspérité. Pour un grand film sur la guerre, il y a vraiment un problème d'incarnation et ça ressemble entre le mauvais théâtre et la démonstration de jeux vidéo
tout à
la finale.
Ah
ben, moi je vais le défendre parce que
ils vont être contents nos auditeurs.
Une œuvre proprette, je trouve que quand même dans ça mérite mieux que ça. C'est quand même un film qui dit aussi que quand on revient de la guerre, on revient mort, même si on en revient vivant. Et ça, il le dit de manière assez. Ben moi, j'ai trouvé ça fort.
En tout cas, il y a toujours cette passion des Français pour les films sur la Grande Guerre. Deuxième position, ah, bonheur, Séjour dans les monts Fuchun, du chinois Gu Xiaogang qui peint à fresque, les saisons dans sa ville natale de Fuyang au bord d'un fleuve. C'est absolument magnifique, donc vous n'avez rien à ajouter.
C'est magnifique, je suis absolument d'accord avec toi. Comment un cinéaste aussi jeune, je crois qu'il a à peine 30 ans, a cette quiétude intérieure, cette ampleur. Il y a des partis pris de mise en scène très fort, et en même temps, il fait jamais le malin avec sa caméra. C'est d'une...
Et avec un épilogue d'une beauté.
C'est vraiment visuelle. Superbe. Et je crois que c'est le début d'une trilogie, donc on va encore avoir...
Tu as raison, les 2 chapitres suivants sont déjà tournés, peut-être en train d'être montés, profitant du confinement, et peut-être, je ne sais pas, en juillet, par exemple, sur la croisette, ce serait bien. C'est un film somptueux. C'est l'antithèse de 1917. C'est-à-dire que c'est aussi sophistiqué, mais personne ne vient appuyer le trait.
Bah, je veux pas rajouter, je suis assez d'accord. Après, moi, c'est un film qui a vraiment infusé. J'ai un souvenir lointain, mais qui grandit un peu comme au rythme d'un fleuve et qui est dans l'embranchement sourd et tout. Non, voilà, c'est un très joli film et qu'il faut, se laisser porter. Oui, c'est un beau film.
Splendide.
Et cette année, le 31e prix des auditeurs du Masque et la Plume dans la catégorie étranger, sortez la vodka, sablé le champagne, c'est le cas de le dire, revient à Drunk du Danois Thomas Vinterberg, film inter. Merci Françoise Bonnet. Où 4 professeurs de lycée, parmi lesquels Mads Mikkelsen, mettent en pratique la théorie authentique d'un psychologue norvégien, selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang de 0,5. Chez Nicolas, c'est bien supérieur, mais en tout cas, c'est le chiffre exact donné. Alors, Sophie ?
Je trouve que c'est un des meilleurs films de Vinterberg, donc je suis contente. Je le trouve néanmoins un peu surclassé en première position. Pour moi, c'est pas le meilleur film étranger de l'année, mais c'est un beau film sur à travers ce personnage, notamment de Mads Mikkelsen,
qui en fait beaucoup, hein.
Qui en fait beaucoup, mais qui est filmé comme un type qui finalement avait tout pour être heureux et s'aperçoit trop tard qu'il aurait dû être heureux. Qu'il n'a pas été. Et à travers lui, je trouve que c'est vraiment le portrait d'un pays qui lui aussi avait tout pour être heureux et qui s'aperçoit que, ben, il n'est pas heureux. C'est un film sur la tristesse d'un pays.
Nicolas.
C'est ça, je pense que le vrai sujet du film, effectivement, c'est notre inaptitude au bonheur, et c'est ça qui rend le film plus intéressant qu'il ne l'est, c'est pas juste, voilà. Et après, je pense que le film a aussi beaucoup plu, parce qu'en ces temps très hygiénistes, où à chaque fois qu'on donne une marque d'alcool, qu'on cite une marque d'alcool, faut dire, attention, l'alcool est dangereux pour, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il y a quelque chose aussi d'assez...
Enfin, les chiffres prouvent que le confinement a joué en faveur de la consommation d'alcool.
Voilà,
non,
mais je pense que ça a c'est beaucoup lié. Joué pour le succès du film, il y a quelque chose il y a un lâcher prise dans le film qui est assez jubilatoire ces temps-ci, quoi.
Je suis d'accord avec Sophie, c'est un des meilleurs films d'un cinéaste que je continue de trouver un tout petit peu secondaire.
Vous écoutez bien Le Masque et la Plume, vous écoutez bien l'émission spéciale consacrée au 31e prix des auditeurs du Masque et la Plume. Et on en vient au film français que nos auditeurs cinéphiles ont plébiscité en 2020. Alors là, il faut rappeler qu'ils ont négligé Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi, ils ont négligé Le sel des larmes de Philippe Garrel, ou encore Cuban Network d'Olivia Assayas. Ils ont en revanche placé à la 10e position énorme de ce film de tourneur comédie douce amère où Jonathan Cohen fait un enfant dans le dos au sens propre, hein, à sa compagne, qui est en plus pianiste de renom et qui est incarnée par Marina Foïs.
J'aime beaucoup le film, c'est un film gonflé, c'est le cas de le dire.
Oui. Elle n'a jamais eu un ventre si gros, Marina Foïs.
C'est sûr que c'est même un peu surgonflé, mais enfin le film est comme ça.
Oui.
Et le film est même assez sulfureux, tellement il est iconoclaste. Sophie Le Tourneur est iconoclaste et sur le désir de maternité d'un homme, franchement, c'est formidable.
Oui, c'est à la fois très déroutant et absolument et très salutaire, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la manière dont elle inverse les clichés entre les hommes et les femmes, et dont on a l'impression que les névroses des personnages font exploser les coutures dont on croit que c'est un naturalisme au début, et en fait, c'est vraiment une farce. Et en ça, Le Tourneur, elle a vraiment une voix, je trouve.
Jonathan Cohen étant idéal pour la farce, si j'ose dire.
Ah oui, non, c'est lui qui porte le rôle.
Elle est formidable.
C'est à la fois une farce et un film presque d'horreur, parce qu'elle utilise le format carré, et la manière dont elle fait rentrer Jonathan Cohen, Sophie Le Tourneur, dans le cadre serré comme ça, comme une espèce de qui veut absolument avoir question de vie et de mort sur son épouse, c'est impressionnant. C'est un film qui m'a fait peur de temps en temps et je trouve remarquable.
En 9e place, les auditeurs ont choisi placer Petit Pays d'Éric Barbier avec Jean-Paul Rouve, l'adaptation fidèle du roman de Gaël Faye qui se déroule au Burundi alors que commence au Rwanda voisin le génocide des Tutsis. Parler ou tout, j'allais dire un film classique sport.
Oui, 9e place, c'est un peu beaucoup trop d'honneur pour un film assez, j'allais dire,
certes. C'est plutôt le sujet, à mon avis, que
voilà,
le film.
Voilà, c'est certes honorable, mais c'est un peu scolaire quand même. Après, bon, il y avait quand même, c'est un sujet très très compliqué de retranscrire à la fois ce regard d'enfant sans édulcorer la rudesse du sujet. C'était très très casse-gueule. On va dire que c'est à moitié gentiment réussi.
Tu l'as dit, c'est c'est très fidèle au roman. Je pense que le roman a beaucoup joué dans le vote des auditeurs. Et c'est vrai que sur l'enfance et le saccage,
le petit garçon est très bien d'ailleurs,
est formidable. Et sur le saccage de l'enfance, on s'attendait à quelque chose de pire avec Éric Barbier. Et franchement, il s'en sort plutôt pas mal, quoi.
Oui, c'est la prime au sujet. Je trouve le roman quand même plus complexe et plus subtil que ça. Plus
8e place, c'est Effacer l'historique de Gustave Kervern et Benoît Delépine ou Blanche Gardin, Corinne Maffiero et Denis Podalydès, tous trois gilets jaunes, partent en guerre contre les réseaux sociaux et les géants d'Internet. Sophie.
Je ne vais pas m'étendre parce que moi, je n'aime pas le film. Je le trouve très expédié, un peu paresseux. J'aime bien Delépine et Kervern, mais là, celui-là, je trouve qu'il n'est pas réussi.
Ouais, mais ça touche là où ça doit un peu toucher. C'est leur manière de faire, de toute façon. Mais je trouve que leur guerre au GAFA est assez savoureuse.
Oui, moi je trouve que c'est peut-être un de leurs meilleurs. Je trouve que leur comique stoïque et un peu dépressif, un peu à la Clarisse Maquis des ronds-points.
Clarisse Maquis des ronds-points.
Il y a vraiment de ça, quoi. C'est pour un peu donner tout de suite l'idée que c'est quand même pas une grosse comédie,
tu vois,
une franche rigolade. Et je trouve que ils arrivent quand même à cristalliser quelque chose de l'époque, de cette espèce d'absurdité et d'inhumanité, de l'uberisation et des où Dieu est algorithme. Je trouve que c'est assez, il y a quand même beaucoup d'idées, même si c'est pas toujours.
7e place, la fille au bracelet de Stéphane Desmoustiers, un film de procès, mais vraiment dans la tradition du genre. D'ailleurs, on ne sait pas si la jeune accusée de 18 ans, qui est jouée par Mélissa Gers, est coupable ou innocente du crime dont on l'accuse, avec Anaïs Desmoustiers, qui est impeccable, d'ailleurs, dans le rôle de l'avocate générale.
Très bonne surprise, c'est vraiment un film inspiré d'une histoire vraie, d'un fait divers avéré, un peu comme Intime Conviction un an plus tôt d'ailleurs, et qui arrive à trouver du romanesque et de la dramaturgie dans une salle de prétoire, qui s'y prête, mais tous les cinéastes ne savent pas le faire, et je trouve que Stéphane Desmoustiers y réussit complètement.
Oui, et puis c'est un film de procès, mais il va contre-courant du film de procès, parce qu'on ne va pas vers la vérité, on va vers l'opacité justement, et ce paradoxe nourrit vachement le film, et en fait un film passionnant.
D'ailleurs, on en sort avec une envie, c'est de le revoir pour essayer de voir
s'il n'y a
pas quelque chose qui vous a échappé, Nicolas.
Mais c'est surtout aussi le portrait d'une fille d'aujourd'hui, d'une adolescente d'aujourd'hui, de ton rapport au réel et à la morale très insaisissable de l'époque des réseaux sociaux. Après, je trouve le film très rigoureux, mais un petit peu sage, quoi. C'est tiré d'un film mexicain qui s'appelle Accusada, qui était un peu plus lourdingue, mais qui était plus fort sur. Il y avait plus de sujets, je trouvais ça plus intéressant. Quoi.
Sixième place, un très beau film d'animation, bien placé par nos auditeurs, c'est Josep Dorel, qui retrace, vous savez, la vie du dessinateur Josep Bartoli, qui a fui l'Espagne franquiste, a été parqué dans un camp français, et a fui à New York et au Mexique, où il a rencontré Frida Kahlo. C'est rare de voir d'ailleurs un film d'animation si haut placé dans notre palmarès annuel.
C'est tellement justifié, ça prouve que nos auditeurs ont vraiment effectivement un sens du cinéma, parce qu'il y a beaucoup encore de critiques qui disent que l'animation, ça n'en est pas du cinéma, mais ça l'est complètement.
C'est en train de revenir, je dirais. Ah ben,
heureusement,
oui,
parce
qu'on a beaucoup
on voit ça dans les sélections des Oscars.
Bien sûr, il y a des propositions formelles dans ce film. Il y a une façon de travailler le trait, de travailler la peinture, la chromatie, la charte graphique, qui est complètement expressionniste, qui utilise sur un sujet quand même qui est grave, hein, qui est quand même celui de la guerre d'Espagne,
qui est même tragique,
Et je trouve que le film est constamment à la bonne distance.
Oui, je suis complètement d'accord avec Xavier, c'est exactement ça. Comment l'animation arrive à prendre en charge un tel sujet, c'est un film d'animation pour adultes, mais c'est magnifique. Et Prix de Luc, premier film.
Absolument. Nicolas.
Oui, c'est un hommage assez vibrant, surtout au dessin, je trouve, de Josep Bartoli, qui faisait partie de cet épisode, moi, que je connaissais très peu.
Personne ne connaissait.
Des réfugiés du franquisme qui ont été accueillis de manière absolument ignoble par le.
Il y a quelques livres et quelques fictions, mais c'est vrai que c'est pas.
Voilà.
Mais
c'est un film très étonnant et très singulier.
Cinquième place. Les auditeurs ont choisi Adolescente au pluriel, le documentaire, vous savez, de Sébastien Lifshitz, qui a suivi pendant 5 ans de leur vie, deux adolescentes de Brive, Emma et Anaïs, depuis le collège jusqu'au lendemain du baccalauréat. Film passionnant qui vient d'ailleurs à juste titre de recevoir le très enviable prix de Luc, Nicolas.
Oui, c'est vraiment un beau film. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est suivi sur 5 ans, ces personnages. Et j'allais dire, il y a un effet vraiment saisissant de voir à cet âge de l'adolescence qui est crucial, comment la vie, le déterminisme social sépare une amitié peu à peu. Non, c'est vraiment un film.
C'est très, très, très beau, très fort. La métamorphose de ces jeunes filles qu'ils filment en direct, à laquelle on assiste. Et au cœur de ça, il y a le rapport mère-fille que je trouve filmé avec une acuité extraordinaire.
Très différent dans les deux cas, d'ailleurs.
Oui.
Xavier. Il y a plein de sujets. Il y a le rapport mère-fille, il y a le rapport effectivement amical, voire sororal entre ces deux filles. Et puis comment l'extérieur, la réalité historique, sociétale,
oui, parce que ça se passe au moment de. Ça termine au moment de l'élection de Macron.
A aussi une conséquence, a aussi une influence.
Ouais. C'est un film magistral. Quatrième place, eh bien, nos auditeurs ont choisi Antoinette dans les Cévennes, qui a été un gros succès de Caroline Vignal, où Laure Calamy, alias Antoinette, poursuit dans les Cévennes, à Dodane, son amant inconstant, qui est joué par Benjamin Laverne, film qui a un charme fou, surtout si on aime les Cévennes, et qui se balade à Dodane, Xavier.
Non, moi, j'ai pas pris la balade.
Au masque, t'avais pris.
Non, moi, tu sais, dès que ça me parle de campagne, du fait de marcher à pied, de respecter
pas les arbres.
Non, moi, j'aime que la ville.
Moi, j'aime la campagne. Et voilà, c'est un voyage. C'est un clin d'œil à Stevenson. C'est un voyage intérieur aussi. C'est une psychanalyse sous le soleil. Et puis, il y a la grâce de Laure Calamy, qui d'ailleurs a été l'une des actrices de notre lauréat, et qui donne toute sa grâce et sa pétulance au film.
Oui, c'est charmant, c'est une espèce de Calamity Jane de l'amour, dans une espèce de faux western Sévenol.
Il a préparé son.
Oui,
effectivement, c'est vraiment un one woman show, et en même temps, il y a une manière de filmer les Cévennes comme une espèce de western de boulevardier assez charmant. Je comprends que ça ait marché.
Troisième place, c'est Été 85 de François Ozon, lauréat, vous le savez, l'an passé du prix des auditeurs, et c'est la rencontre passionnelle au Tréport en Normandie pendant l'été 85. De deux garçons joués par deux inconnus que j'ai trouvé très doués l'un et l'autre, c'est Félix Lefebvre et Benjamin Voisin. Malgré la crise, quand même 360 000 entrées.
Ben, il a eu le courage de sortir à un moment effectivement, où c'était compliqué pour les films d'être sur grand écran, et tant mieux parce qu'il a été récompensé d'un très beau succès public. On a tous été un peu sur la réserve parce qu'on sait quand même, ou on pense que François Ozon peut mieux faire. C'est un film très personnel, peut-être trop personnel, qui n'est peut-être pas au bon moment de sa filmographie, mais qui a en tout cas un charme et une solidité scénaristique et de mise en scène absolue.
Et puis une gravité aussi.
Oui, c'est tragique. C'est solaire et c'est tragique à la fois. C'est un vrai film.
Soleil noir.
Oui, un film.
Je trouve meilleur dans la gravité dans la deuxième partie, moi, qui a presque un côté Almodovar. pas rien, alors que la première, je la trouve plus forcée, plus artificielle. Mais après, effectivement, après Grâce à Dieu, qui pour moi est peut-être son meilleur film, forcément, c'est un petit peu mineur, mais ça reste.
Voilà. Et puis c'est son 19e film, mais adapté d'un bouquin qu'il a lu très jeune, et donc on redécouvre tout ce qui est au cœur de son cinéma, hein, les qu'est-ce qu'il y a au départ d'une vie amoureuse.
En deuxième position, les auditeurs ont choisi Adieu les cons d'Albert Dupontel, la rencontre de trois personnages au bout du rouleau, comme vous trois, joués par Virginie Efira, Albert Dupontel et Nicolas Marié.
Heureusement que Dupontel est là quand même, avec ses cartoons sociaux font quand même toujours du bien, ça regorge d'idées. Il y a quand même, faut dire, aussi son talent de dialoguiste, je trouve même plus qu'aujourd'hui que de Guderman. Ouais, ouais. Son talent avec ses seconds rôles, il a des seconds rôles formidables. Après, c'est pas mon film préféré de lui, je préfère 9 mois ferme qui est plus tenu, parce qu'il y a un sentimentalisme un petit peu forcé, mais quand même, il arrive à cette espèce de satire sociale un peu folle. C'est comme, voilà. Il y en a peu comme lui qui font ça.
Oui, moi je suis pas fan des films de Dupontel, et là, je dois dire, j'étais embarquée, j'ai été émue en même temps que je riais. C'est vraiment un cinéaste artificier, quoi. C'est un feu d'artifice, ce film. Et avec ses gros nez et ses trucs énormes, il embarque, ça fonctionne.
Xavier.
Moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, il y a Virginie Efira, quoi. Voilà. Je ne peux pas dire de mal de film avec Virginie Efira. Je ne peux pas.
Et bien, c'est cette année. Donc la deuxième position, et les auditeurs du Masque et la Plume ont décerné leur 31e prix à Emmanuel Mouret pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et là, pendant ce temps-là, derrière les postes de radio, il y a tous les auditeurs, les millions d'auditeurs du Masque et la Plume qui applaudissent. Emmanuel Mouret, ravi de vous recevoir aujourd'hui, malheureusement sans public, mais le cœur y est, celui des auditeurs. Vous êtes content de ce prix, Emmanuel Mouret ?
Très, très heureux.
On va parler avec vous et avec Sophie, Xavier et Nicolas de ce film qui a cumulé, d'ailleurs c'est assez rare, l'enthousiasme du public et celui des critiques. Mais avant, si vous le voulez bien, quelques repères biographiques rapides pour nos auditeurs. Vous êtes bien né à Marseille en 1970.
Il semblerait.
Il semblerait. Votre grand-père tenait vraiment une boutique d'orfèvrerie religieuse ?
Il semblerait également.
Il semblerait également. Votre père était marchand d'art à Marseille aussi ?
Oui.
Donc pour l'instant, j'ai tout juste. Vous avez réalisé votre premier court-métrage à 19 ans et intégré, j'allais dire parcours obligé, la Fémis, la fameuse Fémis, signé votre premier long-métrage en 2000, Laissons Lucifer, où vous jouez aux côtés de Marie Gillin, car en plus vous avez fait l'acteur beaucoup dans vos premiers films. Vous nous direz pourquoi vous avez arrêté de le faire aujourd'hui, enfin provisoirement. Suivront Vénus et Fleurs, Changement d'adresse, Un baiser s'il vous plaît. Vous donnez cette fois la réplique à Virginie Ledoyen et Julie Gayet. Faites-moi plaisir, L'art d'aimer, qui pourrait d'ailleurs être un peu la devise du cinéaste Emmanuel Mouret que vous êtes, Une autre vie, Caprice, et en 2018, cette merveille qui est Mademoiselle de Jonquière, votre premier film en costume, d'après Jacques le Fataliste de Diderot avec Cécile de France, et Édouard Baer, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, qui a réalisé 280 000 entrées, là encore dans des conditions cette année très difficiles, mais il sort ces jours-ci en DVD, je vais indiquer tout pour nos auditeurs, et je sais qu'il est aussi disponible en VOD sur plusieurs plateformes. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, vous vaut donc prix, qui est aussi un film inter, vous vaut d'être primé par les auditeurs de France Inter, et ce n'est pas d'ailleurs un film si éloigné, selon moi en tout cas, de Mademoiselle de Jonquière, puisqu'il est très littéraire dans ses dialogues, et il met en scène la ronde des sentiments amoureux. Le résumé, c'est un peu un contresens, comme souvent avec vos films, mais là encore plus, mais j'y vais quand même. Daphné, c'est Camélia Jordana, est enceinte de son compagnon François, c'est Vincent Macaigne. Ceux qui ne l'ont pas vu, il faut bien m'écouter, hein, parce que ce n'est pas forcément évident, qui est séparé de sa femme Louise, qui est jouée par Émilie Dequesne. Ils habitent une maison dans le Vaucluse. Là aussi, c'est situé en général.
Ils sont en vacances.
Mais c'est, en général, les lieux ne sont pas aussi précis. Là, c'est clair. Où débarque, en l'absence de François, parti pour son travail, un cousin, Maxime, c'est joué par Nils Schneider, qui est traducteur et qui se rêve romancier. Et pendant 4 jours, Daphné et Maxime vont se raconter leurs histoires d'amour respectives. Commence alors un enchaînement, mais absolument virtuose, de combinaisons sentimentales, d'imbroglio, de marivaudage, de jeux de l'amour et du hasard au sens propre. Vous avez, Emmanuel Mouret, ouvertement placé votre film sous l'égide du philosophe René Girard. Il apparaît d'ailleurs dans le documentaire que monte dans le film Daphné, et de sa théorie du désir mimétique. Expliquez-nous un peu ça, et plutôt expliquez aux éditeurs, avant que je laisse la parole à nos critiques.
Non, j'ai pas voulu placer le film sous l'égide, c'est que la théorie mimétique est m'a permis en tout cas de d'écrire un dialogue que je trouvais savoureux. J'ai pas résisté. Lorsqu'un des personnages se fait quitter ou croit se faire quitter par sa femme, son amoureuse, sa maîtresse, s'inquiète justement à cause du désir mimétique, parce que sa femme étant désirée par un autre, lui-même pourrait à nouveau la désirer. Donc c'était, voilà, c'est juste, mais
c'est plutôt un clin d'œil qu'une motivation.
C'est plutôt un clin d'œil, me semble-t-il, puisque ça serait difficile de réunir tout le film en un seul point de vue. Voilà.
Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ce film? Après Mademoiselle de Jonquière, qu'est-ce qui vous a motivé pour réaliser, pour écrire ce film qui est encore une fois à la fois magnifique et complexe, hein?
Alors, ça s'est pas fait forcément de suite après Mademoiselle de Jonquière, parce que les situations, moi, ce qui m'excite, ce sont des situations, au départ. Je pars jamais, je me considère pas comme un spécialiste ni de l'amour, ni du sentiment, ni du désir.
Pourtant.
Voilà, mais c'est les situations de désir et de sentiment et des situations particulières qui sont à la base des projets. Et puis, il y avait cette situation, en effet, de début, le fait de se raconter des histoires, de se raconter sa propre histoire, et que ce temps de se raconter des histoires crée aussi un lien et donc une histoire. Et puis, il y avait cette deuxième partie qui, pour moi, est comme une sorte de polar sentimental, avec ce personnage d'Emily Deakin. Alors, je ne veux rien dévoiler, parce qu'il y a, voilà, sur lequel, on va dire, le geste qu'elle fait, je reste très, très trouble, est à la fois mêlé et de bonté et de machination et de manipulation. Donc c'était surtout ce côté, je dirais, trouble et qui m'intéresse. Et de toute façon, je pense que je suis plus intéressé par le trouble.
Oui, par le trouble et je dirais aussi par la littérature, par le texte, par les dialogues qui sont formidablement écrits. On le disait d'ailleurs au masque quand on a... parce que vous avez le masque a été très élogieux pour votre film, mais c'est pas toujours le cas dans cette émission. Et tout le monde a rappelé que c'était quand même un film français, comme vous êtes le dernier à pouvoir en faire, aussi bien du point de vue littéraire que du point de vue, je dirais, psychologique.
Oh ben ça me surprend, parce que il y a pas, je trouve que vous parlez beaucoup mieux que ce que je ne sais le faire dans mes films. C'est juste que ce sont des personnages qui échangent et pour fréquenter les cafés. J'ai l'impression qu'on s'échange. Peut-être qu'on est dans une période où on échange moins dans les films français.
Sophie.
Vous réfutez l'idée d'un cinéma qui serait une radiographie de la vie. Or, vos films, même s'ils sont romanesques, me semblent être au cœur même de la vie. Qu'est-ce qui vous met si mal à l'aise dans le fait de prétendre filmer la vie?
Parce que c'est presque ma propre expérience, j'allais dire même du cinéma et de ces cinéphiles. J'ai l'impression que si le cinéma s'inspire en effet quelque part de la vie, le cinéma a aussi pour vocation d'inspirer la vie. Et moi, dans ma façon d'avoir grandi à travers le cinéma m'a inspiré presque parfois davantage de choses que la vie elle-même.
Quel cinéma, par exemple? Quel film? Quel réalisateur?
Beaucoup de cinéastes, de Buster Keaton à Lou Beach, en passant par Renoir, Romer, Becker,
Woody Allen.
Et Woody Allen, bien évidemment. Voilà.
Nicolas.
Je voulais un peu parler du casting et de comment vous l'avez composé, parce que c'est assez, il est assez à la fois très inattendu et c'est un des grands atouts du film, je pense. Je crois savoir notamment que vous pensez pas du tout à Annie Schneider pour le rôle qu'il tient dans le film, c'est que c'est lui qui a lu le scénario et qui est tombé amoureux, qui vous a convaincu. Comment s'est fait le casting? Je crois que vous êtes très sensible, notamment aux voix des acteurs.
Et je voudrais juste ajouter à la question de Nicolas la mienne aussi. Pourquoi avoir choisi Camélia Jordana, qui est formidable dans les films, mais qui n'avait pas eu de grand rôle? Comment vous l'avez trouvé? Comment vous avez eu l'idée aussi de choisir Camélia Jordana?
Mais souvent, on pense qu'on a un scénario et qu'on n'a plus qu'à tourner ce qui est écrit. Je pense, et d'ailleurs les autres cinéastes diront certainement la même chose, que le casting, c'est une continuation de l'écriture d'un film. Il y a autant de Don Juan que d'interprétation de Don Juan. Et donc, quand on fait un film, on le fait déjà avec les acteurs qui sont disponibles sur une certaine date. Il faut, voilà. Et on pourrait rêver d'avoir deux acteurs, mais il faudrait attendre peut-être 5 ans pour les avoir ensemble. Et j'aime bien me laisser surprendre. Ça veut dire que je remise mon tablier de scénariste et j'essaye d'être surpris. Concernant Camilla Jordana, ne regardant que très peu la télévision, voilà, je ne savais pas qui c'était.
Non, je ne crois pas.
Presque pas.
Voilà. Le brio, c'est un film au cinéma.
Et c'est ma directrice de casting.
Vous saviez quand même qu'elle avait chanté.
À peine. Et c'est ma directrice de casting qui me l'a présenté et j'ai été conquis, mais dès la première lecture, dès le premier essai, et justement par son goût de l'interprétation, parce que il y a les choses qu'on dit, ben elle a un goût du jeu et d'interpréter les choses qu'on ne dit pas. L'autre jour, je revoyais Nos plus belles années avec Barbara Streisand, et ça m'a fait penser à Camélia, et dans cette façon de jouer. Absolument. Donc je me dis, elle a un goût du jeu, voilà, qui m'a de suite conquis, et on a construit le casting autour d'elle.
Oui, mais d'ailleurs, elle tient ce rôle, effectivement, presque de maîtresse de maison, comme on dit, ou maîtresse de film, tout au long. Xavier,
vous prêtez au tout début du film à Neil Schneider un dialogue, justement, sur l'inquiétude d'écrire. C'est-à-dire qu'il ne sait pas si ce qu'il va écrire sera intéressant, va plaire. Est-ce que c'est une inquiétude qui vient de vous aussi, qui serait d'une certaine manière autobiographique? Et est-ce que, d'une certaine manière, vos succès, votre reconnaissance, les prix que vous avez reçus, calment un petit peu cette inquiétude, qui est celle de tous vos personnages depuis le début, pratiquement, de votre cinéma? Ou est-ce qu'au contraire, ça la remet en question et ça la croit d'une certaine façon?
Oh, mais je pense que c'est une inquiétude légitime et qui touche la plupart des personnes qui écrivent. Un film, c'est aussi réunir des gens dans le noir avec des portes qui sont, oui, alors elles sont pas fermées à clé. Donc
il dit bien, j'ai peur d'écrire des choses qui ne vont pas intéresser les gens. Est-ce que c'est quelque chose qui taraude un tout petit peu votre travail d'écriture et de cinéaste?
Oui, j'ai toujours peur. J'étais très timide et très réservé étant jeune, et je garde cette peur de prendre la parole, et chaque fois que je parle, comme maintenant, j'ai toujours un petit peu peur en me disant est-ce que c'est finalement intéressant ce que je vais dire.
Sérieusement. Donc en fait, le succès ne change rien à la...
Non, même, et d'ailleurs je suis assez inquiet que le film plaise autant, parce que ça m'inquiète beaucoup pour le prochain que je suis en train de faire.
On va en parler après. Je rappelle que vous écoutez Le Masque et la Plume, une émission spéciale consacré au 31e prix du Masque et la Plume, et qui est décerné à Emmanuel Mouret, qui est avec nous ici au Théâtre de l'Alliance Française pour son film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Avant de donner la parole à Sophie, je rappelle qu'il vient donc de... Il est disponible en VOD sur Univers Ciné et Canal, et il vient de sortir en DVD chez Blackout avec, en bonus, votre court-métrage Le Consentement, que j'ai découvert d'ailleurs, un passionnant livret aussi de l'avant-scène cinéma, avec une longue interview de vous et les coulisses du tournage, et aussi un abécédaire très édifiant, un abécédaire Mouret, de A comme acteur, et W comme Woody Allen, de M comme Marie Vaudage, à R comme Romer. C'est aussi des questions que je vous poserai après. Sophie.
Et c'était pour rebondir sur votre angoisse, parce que après, vous aviez dit que Mademoiselle Jonquière, d'une certaine manière, vous avez réconcilié avec l'idée qu'on pouvait en demander beaucoup au public. Et du coup, que vous étiez, même si ce scénario a été écrit avant, vous aviez pu vous lancer en quelque chose d'un peu plus exigeant. Et vous aviez dit cette chose qui m'avait frappée, et surtout qu'on pouvait y aller franchement avec la mise en scène. Alors, c'est quoi y aller franchement avec la mise en scène?
Moi, ce que je dirais, c'est que y aller franchement, je crois que de plus en plus que le cinéma, c'est justement ne pas tout montrer, ne pas tout dire. Aller plus franchement dans la mise en scène, c'est savoir quelque part mieux caché. Je crois que le moment du cinéma, c'est le moment de l'ellipse, du hors-champ, de ce qui se cache derrière le regard du personnage, parce que c'est l'endroit où l'imaginaire du spectateur est convoqué, et donc son intimité. Le film barbant, ce qu'on appelle péjorativement parfois, je ne veux pas du tout, le téléfilm ou le je ne sais pas quoi, c'est le film où tout est dit. C'est dit dans le dialogue, c'est dit dans l'expression du comédien, c'est dit dans la musique, et parce qu'il y a cette peur quand on fait des films qu'on ne passe pas à côté d'informations. Donc, et après, c'est une recherche peut-être personnelle par rapport à la mise en scène qui se déploie au fil des années, avec un goût de plus en plus prononcé autour du plan séquence. Mais ça, je pourrais développer longtemps. Je ne sais pas si je le résume bien.
Avec, d'ailleurs, je le précise, une BO magnifique, classique, pour ce film. Xavier.
C'est un film, justement, dont la mise en scène sème des indices extrêmement intéressants. Une des scènes du début, par exemple, où on voit Julie Piaton et Neil Schneider dans un appartement dont ils vont vont jouer avec les portes, dégager des espaces, et c'est déjà pratiquement une indication sur le revirement de la deuxième partie, que je ne révélerai évidemment pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il suffit de changer très légèrement à l'intérieur d'un cadre qui ne bouge pas, un point de vue, ouvrir un espace, révéler des choses pour en cacher d'autres. Subitement, j'ai l'impression que le film a déjà est en train d'écrire sa fin, son apothéose, et que c'est toutes nos histoires d'amour ressemblent un tout petit peu à ça. C'est-à-dire que pour s'offrir, pour assumer des choses, il faut en dissimuler, il faut en mettre de côté, il faut en mettre hors champ. Et je trouve que la mise en scène prend aussi énormément en charge ce principe-là d'écriture.
Tout ça avec une grande liberté, il faut le dire.
Une grande liberté, une grande fluidité, c'est pas théorique, c'est juste un jeu comme ça.
Des sentiments et de l'amour.
Des corps et des espaces, mais voilà. Et sur l'histoire de la deuxième chance, de la rédemption amoureuse, du mensonge, même le droit au mensonge, je trouve que pratiquement toute cette scène-là, elle est en train de raconter cela uniquement par rapport simplement à un jeu d'espace et de corps à l'intérieur du cadre.
C'est un commentaire, c'est pas une question, ça. Hein.
si, parce que je vais lui poser la question de savoir si d'abord il est d'accord.
Hein. Emmanuel Mouret.
Oui, mais j'avais envie d'un film. En effet, il y a beaucoup de paroles échangées. J'avais envie d'un film qui circule, voilà, où il y a une certaine forme de circulation permanente et d'échapper le plus possible à des champs contre champs. Il y a des personnages posés, d'où cette idée de circulation continue. Mais là, j'en parlerai plutôt d'une manière intuitive. Ça veut dire que souvent, les cinéastes sont interrogés comme s'ils savaient tout, mais on fait aussi beaucoup de choses par goût et par intuition. Et puis, c'est aussi quelque chose qui vient, parce que dans ce que vous dites, et quand je pense au plan que vous signalez, notre amour avec mon directeur de la photographie pour le travail de Woody Allen avec Gordon Willis, justement, qui était ce chef opérateur qui avait travaillé sur Le Parrain et qui était un peu on l'appelait, je crois, le prince des ténèbres, parce qu'il mettait, il disait quelque chose de très simple. Il disait, les personnages disent tellement de choses dans les dialogues que c'est pas la peine qu'on les voit. Voilà.
Bon, il n'était pas si con que ça, le commentaire. Hein. Merci beaucoup, Nicolas.
J'aimerais revenir un peu, parler de la musique et revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le désir mimétique. Mais c'est intéressant parce que la partition musicale du film, qui est complètement prise dans le patrimoine, qui est presque un best-of du classique, j'allais dire, que des morceaux quand même qu'on connaît beaucoup. Il y a les Gnossiennes de Satie, il y a une berceuse de Chopin, et il y a des Quatre saisons.
Mais c'est ça la bonne idée, je trouve, moi.
Voilà, alors c'est des choses qui ont été très galvaudées, notamment par la publicité, et on a l'impression que vous les utilisez avec une fraîcheur, comme si vous reveniez au sentiment premier que peut évoquer cette musique. Et c'est pour ça que je reviens au désir mimétique. Mais est-ce que vous pensez que comment le rapport dans le film aussi, un rapport aux œuvres d'art, à la littérature, aux livres, on a l'impression presque que ça influence les comportements amoureux des personnages. Et est-ce que cette utilisation de la musique, elle n'est pas là aussi pour induire un peu cette idée-là?
Alors, les portes de choses. Il y a une idée que j'aime beaucoup, c'est cette idée que j'ai entendue quelque part, peut-être par un philosophe, mais je ne me souviens plus de qui, comme quoi on serait, l'homme n'est qu'un tissu d'histoire. Et j'aime bien cette idée de tissu d'histoire. Et je crois profondément à cette idée selon laquelle, si on est chacun le personnage principal de notre vie, on en est aussi le narrateur. Et on a besoin de se faire le roman de sa vie pour lui donner, même à défaut d'un sens, moi j'aime bien une allure. Et c'est pour ça qu'on a cet appétit permanent d'histoire, mais aussi de musique, d'œuvres d'art. Il faut que sa vie ait une allure. Sauf que, bon, notre vie avance tout le temps. Il y a des événements qui viennent contrarier le roman qu'on avait bâti et il faut tout remettre. Et donc, la musique joue beaucoup pour donner une allure à sa vie. Alors, ce qui s'est passé sur le film, ça nous a un peu échappé parce que, au départ, on s'est posé la question si on allait faire une musique originale. Mais, pour converser avec un éventuel compositeur, avec mon monteur, on a posé des musiques qui sont indicatives, des musiques qu'on aimait, qui nous semblaient bien aller avec les situations. Et arrivé à la fin du film, on s'est dit, mais finalement, cette variété de musique, finalement, elle exprime quelque chose mieux que si un compositeur crée deux, trois thèmes qui synthétiseraient tout. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous a échappé d'une certaine manière.
Vous parlez de tissu de vie, vous êtes venu recevoir ce prix aujourd'hui au Théâtre de l'Alliance Française depuis Marseille, où vous habitez. Pourquoi cette ville qui est la vôtre n'est pas dans votre cinéma?
Oh, elle a été. Elle a été lors de mes quasiment trois premiers films, parce que j'avais sorti une sorte de. Un moyen métrage avec un court métrage qui s'appelait Promets-toi donc tout nu. Pour plusieurs raisons. Parce que c'est une ville qui a une identité extrêmement forte. Donc d'ailleurs, dans mes premiers films, j'essayais de contrer un peu l'identité de cette ville. Et moi, je fais des films, on va dire, urbains. Et si l'identité dans cette histoire, j'avais besoin de... Si l'identité des films, des villes est trop forte, il faut que ça fasse partie du sujet du film. Or, je me dis, c'est un peu comme dans les films américains, quand l'action se passe à Los Angeles ou à New York, on se pose pas trop de questions. Si elle se passe dans une autre ville, ben ça fait partie du sujet. Donc, c'est peut-être à cause de son identité trop forte que je ne sais pas intégrer à mes histoires où ça n'aurait pas lieu d'être.
En revanche, vous avez toujours besoin d'y vivre. Et pourquoi, j'y faisais allusion tout à l'heure en faisant rapidement votre portrait, pourquoi est-ce que vous avez disparu des films où vous avez été un merveilleux comédien pendant de nombreux
La question, c'est comment j'en suis venu à jouer, parce que, en fait, ce qui s'est passé, j'ai joué dans mon premier, c'était un moyen métrage qui était sorti, c'était mon film de fin d'études, et j'ai joué parce que c'était on était à 2 semaines du tournage, et l'élève producteur me dit, mais alors, faut vite que tu trouves quelqu'un. J'ai dit, je sais pas, mais il dit, joue-le toi. Et puis moi, ça m'a fait un déclic en me disant, ah oui, c'est vrai que dans toutes les promotions précédentes et tout ça, je connais aucun élève réalisateur qui a joué dans son propre film, et comme j'aime Nanni Moretti, Woody Allen et compagnie, je me suis dit, tiens, je l'ai fait par une sorte d'informe d'impertinence et d'insolence, voilà. Et sauf que mon premier producteur m'a dit, je te produis un film à condition que tu joues dedans. Et donc j'ai joué ce film avec Marie Gillin, Les 100 Lucifer, et qui a eu un accueil, on va dire, très moyen, médiocre, et je me suis dit, jamais plus je joue dans un film. Je n'ai pas joué dans mon deuxième film, qui s'appelle Vénus et Fleurs. Et sur mon troisième film, Changement d'adresse, on envoyait le scénario partout pour trouver des comédiens un peu connus, pour trouver un peu de financement, mais ça ne répondait pas. Et un jour, une certaine Frédérique Bell, qui faisait une émission sur Canal+, La Minute Blonde, vient pour passer des essais. La personne qui devait faire passer les essais ne pouvait pas être là. C'est mon producteur qui prend la caméra. Il me dit, il fallait quelqu'un pour donner la réplique. Et là, après les essais, il me dit, elle est super et il faut que vous jouiez ensemble. Et comme le film a marché, mon producteur m'a dit, il faut que tu joues le prochain et tout ça, voilà. Quand Fais-moi plaisir avait un peu moins bien marché, et donc il m'a dit, bon, ça serait bien que tu que tu joues un peu moins, voilà. Mais voilà, non, ça n'a jamais été mon objectif de jouer dans des films. Voilà, j'ai du plaisir à ne pas jouer aussi, comme je peux en avoir à jouer.
Dans les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, si vous aviez eu un rôle à jouer, ça aurait été lequel?
Comme ça, de brûle pour point, je dirais celui qu'interprète Vincent Macaigne, mais je suis tellement heureux que ça soit Vincent Macaigne.
Oui, pour rebondir sur la musique.
Sophie Avon.
Vous aviez dit que la musicalité, comme vous l'entendiez, c'était aussi le dialogue. Là, il y a énormément de musique. Vous parliez aussi tout à l'heure d'ellipse. Vous n'avez pas eu peur de la surabondance de musique qui aurait redondé avec les dialogues?
Oui, mais j'ai eu peur. Mais pour moi, la musique, alors on passe énormément de temps et on passe au moins la moitié du montage à essayer des musiques. Et l'idée, c'est évidemment la redondance. Et donc, ce qu'on cherche dans la musique, c'est plutôt qu'elle révèle quelque chose. J'aime bien cette idée que la musique soit comme une voix off sentimentale, comme parfois une voix off, elle accélère le récit. Et parfois, certaines musiques, justement, elles nous plongent et j'ai l'impression qu'elles accélèrent les scènes, tout en créant du plaisir, parce que, et c'est la chose dont on n'a pas parlé, je veux dire, la musique, il y a quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Je crois que j'ai lu il n'y a pas très longtemps une phrase de Jean Kelevitch qui disait, la musique est faite pour le plaisir, et s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien. Je trouvais que c'était assez joli.
Jérôme l'a dit au début, c'est un film très virtuose dans son écriture. Il y a deux temporalités, il y a le temps actuel et puis il y a le temps du souvenir, il y a le temps du mémorial. Il y a une voix off qui se rajoute là-dessus. C'est un film extrêmement précis. Est-ce que tout était vraiment huilé, calibré au moment du tournage, ou est-ce qu'au moment du montage, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer une ou deux fois sur une table de montage justement, cette précision, cette harmonisation, vous avez continué à la travailler, parce que vraiment, ça tient au cordeau, un peu plus, un peu moins, et le film se déséquilibre, ce qui n'est jamais le cas.
Non, mais vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que même pendant le tournage, le monteur qui voyait les rushs, je lui dis, alors, qu'est-ce que tu penses? Il me dit, mais je sais pas, parce que c'est tellement de petits bouts. Et le film est apparu, on va dire, le monteur avait fait un premier montage, mais que j'ai pas voulu regarder, on a travaillé, il est apparu à peu près 4 semaines, et d'un coup on revoit un montage, et ouf. Donc non, on ne savait pas, c'est... Alors évidemment, le montage est très précis, ça se joue à quelques images, mais on s'en aperçoit assez tardivement.
Nicolas.
Et est-ce que justement en voyant, je sais qu'on a toujours du mal à avoir du recul sur son travail, mais est-ce que quand vous avez eu le film fini, en le voyant, vous, parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose dans le film qui s'impose vraiment, c'est que si autant je pouvais avoir parfois des réserves sur votre cinéma précédemment. Et là, je trouve que c'est vraiment une œuvre complètement aboutie, accomplie, d'une richesse et d'une ampleur, d'une profondeur dingue. Est-ce que vous, ça, vous en avez conscience quand vous avez découvert le film? Et voilà, moi, le jour où Guitry a fait le roman d'un tricheur, je pense qu'il a compris qu'il avait passé quelque chose. Là, je trouve qu'il y a ce sentiment-là, quoi. Il y a vraiment quelque chose une plénitude dans le film et un accomplissement qui m'a bluffé. Est-ce que ça, vous en avez eu conscience?
C'est pas vraiment non plus une question, hein. C'est plutôt
savoir si vous en avez eu conscience à l'écriture ou une fois.
À quel moment?
Mais il ne nous empêche pas d'être élogieux, quand même.
Là, j'en ai conscience maintenant. Vous le dites. Mais non, quand on sent qu'il y a quelque chose qui marche, ce qu'on se dit, et d'ailleurs, je vais prendre une formule, je vais encore citer un cinéaste qui paraît être un grand cinéaste, mais je me souviens plus, j'ai entendu quelqu'un le citer ça il y a très longtemps, et qui disait que pour réussir un film, il faut deux choses. La première chose, c'est avoir de la chance. Et la deuxième chose, c'est avoir encore de la chance. Donc, parce que même si on pense à beaucoup de choses, il y a une sorte de mayonnaise où il faut aussi de la chance. Alors, peut-être qu'il faut savoir la saisir, mais je pense plutôt à ça.
Emmanuel Mouret, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous préparez, puisque vous avez fait un tout petit peu allusion à l'avenir, qu'est-ce que vous préparez après ce film très marquant et très primé?
Je prépare un film dont le titre est un programme aussi. Le film contient sa fin, ça s'appelle « Chronique d'une liaison passagère ». Et c'est le récit de deux amants. Et la particularité, en tout cas formelle, de ce récit, c'est que on se retrouve à tous les rendez-vous de ces deux amants. Ça veut dire qu'on ne voit l'un et on ne voit pas leur vie à côté. On ne voit pas leur vie à côté et on suit une sorte de scène de la vie extra-conjugale, si on pouvait partir du film de Bergman. Voilà.
C'est un bon titre aussi.
Et là, vous en êtes à quelle étape? Au scénario encore ou...
Non, enfin, le scénario... Le tournage est prévu pour la toute fin du mois d'avril.
Très bien, j'espère que ça se fera dans des conditions sanitaires optimales. Est-ce que vous avez déjà votre casting ou c'est trop tôt pour vous interroger sur cette question?
Eh bien, Sandrine Kiberlin et Vincent Macaigne, voilà, pour jouer ses amants.
Vous êtes infidèle. Une dernière question, Nicolas?
Moi, j'ai une question sur les personnages masculins qui, sans doute, vous ressemblent un petit peu, pour partie en tout cas, plus que les femmes et les vos personnages sont tous maladroits, produisent des catastrophes et en même temps sont pleins de bonnes intentions. Quand vous écrivez un scénario avec des personnages de cette eau, comment on évite d'avoir des personnages qui se ressemblent ou qui sont trop proches les uns des autres?
C'est déjà le casting, les comédiens, et puis non, je pense qu'il y a le tempérament des comédiens, mais c'est un souci, en effet, j'y songe régulièrement. Mais c'est ce souci des autres qui, pour moi, me semble permettre une plus grande cruauté. C'est quelque chose auquel je suis attentif. C'est presque même aussi une leçon peut-être de cinéma et des films que j'ai aimés. Et j'aime bien, en effet, les films où les personnages sont soucieux envers des autres, parce que c'est encore plus terrible d'avoir des douleurs et des souffrances et des méprises, alors qu'on est tous soucieux les uns des autres.
Merci beaucoup Emmanuel Mouret d'être venu ici au Théâtre de l'Alliance Française recevoir ce 31e prix des auditeurs du Masque et la Plume pour votre très beau film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Un film, je le rappelle à nos auditeurs, qui est disponible en VOD en attendant la réouverture des salles bien sûr sur Université Canal et qui vient de sortir en DVD chez Blackout avec de très bons bonus, enfin une qualité d'ailleurs tout à fait excellente, en attendant de le voir sur le grand écran que mérite vraiment ce très beau film. Cette émission est maintenant terminée. Je remercie Sophie Avon, Xavier Le Herpeur et Nicolas Chalaire pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir à la technique au Théâtre de l'Alliance Française, et je les remercie, il y avait Bruno Mourlan et Jean-Benoît Tétu pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parle de littérature. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.